Voilà, bonjour à chacune et à chacun. C'est un privilège de pouvoir vivre ce culte avec vous. Je vous transmets les salutations de vos églises sœurs à Saverne et à Sarrebourg. L'église à Saverne aujourd'hui qui est rassemblée autour d'un culte en famille avant de vivre l'assemblée générale cet après-midi. Et l'église de Sarrebourg qui est rassemblée avec le correspondant de la mission Portes Ouvertes qui vient leur parler des chrétiens persécutés dans le monde. Voilà, en tout cas, on a de la joie de pouvoir travailler ensemble à différents niveaux et c'est beau ce que le Seigneur fait à travers ça quand on met les forces ensemble. Je pense notamment au travail avec les flambeaux, mais aussi les groupes de jeunes qui se soutiennent et puis d'autres occasions aussi certainement qui se présenteront. Ce matin, j'aimerais vous parler de la paix. Alors, pas la paix, celle au loin, mais la vôtre. La paix, celle qui est là dans les moments critiques, ou pas, justement d'ailleurs. Peut-être qu'elle n'est pas là dans les moments critiques, dans les moments de tension, dans les moments d'opposition. Et pour ça, nous allons aller dans l'évangile de Luc, au moment de l'arrestation de Jésus. Un moment critique, s'il en est un, n'est-ce pas? L'arrestation de Jésus. Est-ce que cet épisode peut nous apprendre quelque chose sur la paix? Cette arrestation de Jésus nous amène dans cette période de Pâques. Aujourd'hui, on est une semaine avant Pâques, hein. On est dimanche des Rameaux. Cette arrestation de Jésus amène le lecteur au cœur des événements autour de la crucifixion. Dans tous les évangiles, le récit ralentit. Avant, en quelques chapitres, on brossait 3 ans de ministère de Jésus. À partir du début du récit de la crucifixion, qui commence avec ce qu'on a déjà lu aussi, hein, Jean 13, mais aussi l'institution de la Sainte Cène, eh bien, les événements vont ralentir et c'est la fin des évangiles qui va prendre toute la place pour seulement 3 jours, là où on avait avant quelques chapitres, 3 ans. Ces événements sont les plus importants des évangiles et c'est pourquoi les évangélistes les ont rapportés avec beaucoup de détails. Je lis donc, et vous pouvez lire avec moi, dans Luc, au chapitre 22, au verset 47 à 53. Luc, chapitre 22, verset 47 à 53. Il parlait encore quand une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme ?» Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec Jésus dirent, « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit, « Laissez faire, arrêtez. » Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Jésus dit ensuite aux chefs des prêtres, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus pour l'arrêter, « Vous êtes venus comme pour un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. » Alors le texte d'aujourd'hui nécessite une petite enquête pour ne pas passer à côté de l'intention de l'auteur, c'est-à-dire de l'évangéliste Luc qui a écrit sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Les 4 évangiles relatent tous les mêmes faits lors de cette arrestation de Jésus, ou en tout cas relatent cette arrestation. Et chaque évangéliste s'est en partie appuyé sur les témoignages communs aux autres évangélistes, et puis en partie s'est appuyé sur des témoignages uniques. On voit donc différentes paroles en fonction de l'évangile que l'on lit. Et Jésus a certainement prononcé toutes ces paroles qu'on trouve dans les différents évangiles, mais chaque évangéliste a sélectionné ce qui lui semblait important pour pouvoir montrer ce qu'il voulait montrer. Et donc, chaque évangéliste n'a pas mis l'ensemble des paroles de Jésus, mais simplement un échantillon. Il a sélectionné. Et donc, à travers cette enquête, on va voir sur quoi ce texte-là met l'accent. Et on cherchera, est-ce que justement il nous parle de paix? Il n'y a pas le mot paix hein, dans ce texte que j'ai lu. Commençons avec la trahison, le début des hostilités, versets 47 et 48. Jésus parlait encore quand une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme ?» Alors ce texte situe juste après que Jésus ait prié intensément dans le jardin de Gethsémané. Et Jésus parlait encore à ses disciples. Il était en train d'exhorter ses disciples à se tenir éveillés et à prier face à la grande épreuve qui allait arriver de manière imminente. Mais les disciples, il leur était impossible de veiller à cause de la fatigue, un peu comme aujourd'hui, parce qu'on a une heure de sommeil en moins, n'est-ce pas? Vous savez comme moi qu'avant un conflit, avant des hostilités, nous sommes toujours incrédules sur la réalité et la gravité de ce qui va arriver. Nous ne sommes jamais prêts à quitter l'état de paix dans lequel nous sommes. Vous vous souvenez, par exemple, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a 4 ans? On nous rapportait la présence de nombreux soldats à la frontière, mais personne n'a cru à une invasion. Jusqu'au matin du 24 février 2022, où on a vu à la télé des colonnes de chars entrer en Ukraine. On a du mal à se dire oui, l'hostilité va arriver. On a du mal à sortir de notre état de paix. Et les disciples non plus n'arrivaient pas à réaliser ce qui allait arriver. Ils n'étaient donc pas prêts. Ils ne pouvaient pas se préparer. Mais Jésus, lui, était prêt. Et on l'a entendu encore tout à l'heure. Tout était prêt. C'est Judas donc qui arrive et qui trahit Jésus et en indiquant aux autorités où se trouve Jésus. Et parmi la foule, parmi les disciples, lequel est Jésus? En pleine nuit, il vaut mieux arrêter le bon. Judas, lui qui a été au bénéfice du ministère de Jésus durant 3 ans. Il a vu toutes sortes de miracles. Il a entendu tout l'enseignement de Jésus. Il a même appris à servir Jésus. Il est allé évangéliser, Judas. Il était dans le camp de ceux qui suivaient Jésus. Il partageait leurs intérêts, vivait la solidarité matérielle, affective et de sécurité. En marchant avec Jésus, il était sous la responsabilité de Jésus et il dépendait de Jésus. Et aujourd'hui, n'a-t-il plus besoin de Jésus ? Si, il en a encore besoin pour gagner les 40 pièces d'argent. Il va vendre son maître et en tirer le dernier bénéfice. Et ensuite, il sera dans l'autre camp, le camp de ceux qui ne veulent pas de Jésus. Ce changement radical, cette trahison, introduit bien cette nouvelle période dans laquelle le ministère de Jésus est rentré. C'est une période d'hostilité ouverte. Une période d'affrontement. Les opposants de Jésus passent à l'action. Jésus, lui, il s'est préparé à cette période d'hostilité. Il s'est préparé dans la prière, dans sa relation avec le Père. Il s'est attaché très fort à son Père pour être prêt à réagir de manière juste face à cette hostilité. Mais les disciples, eux, n'étaient pas prêts. Ce n'était pas possible pour eux. Et nous, en tant que chrétiens, comment est-ce que nous nous préparons à l'hostilité, à l'adversité? Est-ce que nous pouvons vivre les périodes d'hostilité et d'adversité en paix et même en étant des ouvriers de paix? Réfléchissons un peu, quelles sont les hostilités qui viennent sur nous? D'où sommes-nous attaqués? Comme dans le texte, parfois, la trahison des personnes à qui nous faisons confiance, qui nous abandonnent et qui nous font un mauvais coup. Ça fait mal quand ça arrive. Et puis les attaques peuvent venir aussi de personnes qui nous attaquent parce qu'elles ne sont pas d'accord avec nous. Parfois cela peut être un conjoint, quelqu'un de la famille. On est en désaccord et puis la personne vient nous attaquer. Parfois, l'hostilité peut venir de personnes qui nous veulent du mal. Oui, quelqu'un qui veut notre portefeuille dans la rue, pourquoi pas. L'hostilité peut venir de la persécution. Peut-être qu'on ne la vit pas ici, mais nous connaissons nos frères et sœurs dans le monde entier qui la vivent. Et puis, l'hostilité peut venir aussi du combat spirituel, où c'est l'ennemi qui vient nous attaquer. Alors, est-ce que dans ces moments-là, nous sommes prêts à vivre ces moments dans la paix en réagissant de manière juste? J'aimerais vous raconter l'histoire qui est arrivée dans une ONG évangélique récemment. Et il y a eu une publication dans Christianisme Aujourd'hui et différents autres journaux qui raconte cette histoire. En décembre 2025, l'ONG humanitaire évangélique Samaritan's Purse révélait qu'un de ses pilotes avait déjoué une tentative de détournement. Pilote expérimenté, Jim Strait ne s'attendait pas à vivre une telle épreuve. Alors qu'il livrait des médicaments au Soudan du Sud avec son passager Ben, un homme a surgi dans le cockpit. À 40 minutes de leur destination, le pirate de l'air leur a ordonné de mettre le cap sur le Tchad. Il a sorti un pistolet, m'a montré que le chargeur était rempli de 13 balles de 9 mm, l'a inséré dans l'arme, puis a engagé une balle dans la chambre, le doigt sur la détente et a pointé le canon directement sur mon visage, raconte Jim Strait plus de 3 mois après les faits. Au sol, l'angoisse était palpable. Prévenu dans la nuit, Matt Olson, directeur de l'aviation de l'ONG, s'est mis à genoux pour prier avec son épouse. Il intercédait pour son ami ainsi que pour Ben. Nous nous accrochons de toutes nos forces en espérant que cela se termine bien et nous prions avec une intensité que je n'avais jamais connue de toute ma vie, confie-t-il. Pour gagner du temps, le pilote Jim Strait a effectué de larges virages tout en se dirigeant discrètement vers un aéroport voisin au Soudan du Sud, où il espérait l'intervention des forces de sécurité. Inspiré par un passage de la Bible rappelant que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, il a décidé de parler de Jésus et du salut à son agresseur. Le pilote raconte avoir clairement entendu Dieu lui annoncer une semaine plus tôt qu'un événement important se produirait. Dans le cockpit, il a compris que c'était le moment pour lequel il était préparé. Cela m'a beaucoup apaisé de savoir que Dieu m'en avait parlé. C'était comme si Jésus disait « Je t'en ai parlé et c'est maintenant ». Il ne m'avait pas dit comment cela allait finir, mais c'était cela, témoignait-il. Jim et Ben ont alors prié pour le pirate de l'air. Le pilote lui a ensuite assuré qu'il serait en sécurité s'il les laissait atterrir, non pas au Tchad, mais au Soudan du Sud. Une fois au sol, des soldats ont procédé à son arrestation sans violence. Fait remarquable, Jim et Ben se sont ensuite assis avec l'homme et entourés des militaires, ils ont prié à nouveau, cette fois-ci avec lui. Peu après, Matt Olson a pu contacter l'épouse de Jim Strait pour la rassurer. Le pilote, lui, confie avoir accepté l'éventualité de sa propre mort. L'issue, selon lui, se terminerait soit bien, soit merveilleusement bien, faisant la distinction entre un atterrissage réussi et la perspective d'aller au ciel. Ce témoignage illustre parfaitement que la meilleure préparation à toute adversité pour un chrétien, c'est la prière. Cette vie de prière régulière et intense nous prépare à réagir d'une manière où nous pouvons être des outils au service du Seigneur dans l'adversité. Et je ne parle là pas juste de temps de prière qui serait une succession de demandes. Parfois, ça nous arrive, notre temps de prière, c'est juste « Ah Seigneur, donne-moi ça, ça et ça ». Je parle de temps de prière dans lesquels on cherche Dieu, on cherche la volonté de Dieu, dans lesquels on apprend à mieux connaître Dieu, ces temps de prière nourris par la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de secret dans la vie chrétienne. Le temps passé avec le Seigneur est essentiel. Le matin chez soi, mais aussi durant le travail, en voiture, dans les transports, pendant la pause. Ce n'est pas juste un temps dans la journée, c'est toujours à nouveau dans la journée. Je disais que personne n'est prêt à la période d'hostilité, et souvent on ne veut pas se préparer à l'hostilité quand on est dans une relative paix. Pourtant, c'est bien cette préparation qui nous permet de vivre des périodes d'hostilité en restant nous-mêmes en paix, comme l'exemple de ces pilotes, comme l'exemple de Jésus. Dans le texte de Luc, nous voyons les disciples, eux, qui ont une autre stratégie. Ils pensent qu'une autre stratégie est peut-être plus efficace. C'est la meilleure défense, c'est l'attaque. On a même des dirigeants politiques qui nous rappellent de temps en temps. Voilà, verset 49. Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec Jésus dirent « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Alors c'est bien de poser une question à Jésus. C'est mieux d'attendre la réponse avant d'agir. Il y avait là des disciples qui pensaient qu'attaquer en premier serait approprié à cette situation. Enquêtons un peu plus pour bien comprendre ce qui se passe ici. On va comparer aux autres détails qui sont relatés dans les autres évangiles. Jean, au chapitre 18, nous apprend « Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. » Ah, on comprend qu'il s'agit de Pierre l'impulsif. L'impulsif, oui, celui qui réagit un peu plus vite qu'il ne réfléchit. Vous vous reconnaissez peut-être dans ce disciple impulsif qui, au lieu de faire la volonté de Dieu, fait et dit ce que ses tripes lui imposent en situation de stress. Alors peut-être que vous reconnaissez la personne à côté de vous, plutôt que vous-même, je ne sais pas. Vous pensez à quelqu'un d'autre dans l'assemblée. Oui, l'impulsif. On pourrait quand même se poser encore la question d'où il avait une épée, ce Pierre. Alors, il y a dans le texte qui précède une histoire d'épée, justement. Luc, chapitre 22, à partir du verset 35. Jésus leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. En effet, je vous le dis, il faut que s'accomplisse encore dans ma personne ce que ce texte de l'Écriture, il a été compté parmi les criminels, et ce qui me concerne est sur le point de se réaliser. Ils dirent, « Seigneur, voici deux épées. » Il leur dit, « Cela suffit. » Ça aussi, c'est un épisode que seul l'évangile de Luc raconte, parce que l'évangile de Luc met l'accent sur ces épées. Alors, ils n'ont pas vendu leurs vêtements pour acheter une épée, ils en avaient déjà deux. Et on peut imaginer que, de ce temps-là, quand on voyageait, on avait besoin d'une épée. Parce que quand on était loin des villes, on était exposé aux brigands, et il n'y avait pas la police qui pouvait intervenir en 5 minutes pour venir nous aider. Donc c'est possible que les voyageurs avaient l'habitude d'avoir des épées. Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas en avoir. Oui. Ici, Jésus, ce qu'il veut dire, vraiment, il est en train de leur rappeler que précédemment, il les avait envoyés sans rien. Et il n'avait manqué de rien, parce que la population les a accueillis. Mais maintenant, il va y avoir un changement de circonstances, avec des nouvelles instructions. Il est en train de les préparer à l'hostilité, à la violence qui va avoir lieu. Et cette période commencera avec l'arrestation de Jésus. Il est en train de les préparer pour qu'ils comprennent que les gens de l'extérieur ne vont plus répondre aux besoins des disciples, comme c'était le cas avant. Et pour expliquer ça, Jésus utilise l'image d'anciennes instructions en parallèle avec des nouvelles instructions. Mais les disciples comprennent qu'il faut littéralement des épées, plutôt que de comprendre qu'ils doivent se préparer à une période d'adversité. Ils comprennent « Préparez-vous à vous battre !» Alors Jésus répond, cela suffit. C'est difficile d'interpréter cette phrase. On peut l'interpréter de deux manières. On peut interpréter en disant, c'est suffisant, oui, deux, ça suffira, deux épées. Ou alors, on peut l'interpréter comme, arrêtez, vous n'avez rien compris. Et je pense que c'est plutôt la deuxième interprétation qu'il faut privilégier, puisque le texte nous montre que Jésus ne voulait pas qu'ils se battent avec des armes. Jésus n'envisageait pas un usage offensif de l'épée. Cela irait en contradiction avec le reste de son enseignement. Voilà, revenons donc à notre texte. Les disciples pensent que la meilleure défense face à des personnes en armes, c'est d'utiliser leurs propres armes et d'attaquer les premiers, alors que Jésus voulait les préparer à l'hostilité, mais ne voulait pas les préparer à se battre. On voit là, dans l'attitude, un grand contraste entre des disciples prêts à faire la guerre et Jésus qui est prêt à prendre la croix. Pour les disciples, la meilleure défense en cas d'hostilité, c'est l'attaque. Pour Jésus, la meilleure attitude face à l'hostilité, c'est de faire la volonté du Père. Quel contraste! Et c'est à ce moment-là que Jésus va enseigner ses disciples pour qu'ils apprennent à adopter une autre attitude dans ces situations d'hostilité. Jésus va enseigner à être un artisan de paix dans la main de Dieu. Verset 51. Mais Jésus prit la parole et dit, « Laissez faire, arrêtez. » Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Cette guérison, c'est aussi, on trouve ça aussi seulement dans l'évangile de Luc. C'est le dernier miracle de Jésus, du ministère de Jésus. Un acte de miséricorde envers un ennemi qui est venu pour pour l'amener à la mort. Le premier miracle, ah, c'est bien, du vin pour ses amis. Le dernier miracle, un acte de guérison et de miséricorde pour un ennemi qui vient l'amener à la croix. Waouh! Quel contraste la réaction de Jésus par rapport à nos propres réactions impulsives quand nous nous sentons attaqués. Vous savez, ces réactions qu'on justifie en disant « Ah, il n'avait qu'à pas me chercher hein. », ces réactions qui détruisent des relations, ces réactions qui ébranlent parfois l'unité de l'Église, qui apportent beaucoup de tristesse. D'un point de vue humain, ces réactions humaines d'attaquer quand on se sent attaqué sont tout à fait compréhensibles, peut-être parfois même justifiables. Mais du point de vue de Jésus, ce n'est pas justifiable du tout. Une personne qui se complaît dans ce type de réaction et qui ne cherche pas à changer devrait même être encouragée par la discipline d'Église à changer d'attitude. C'est quelque chose de grave. Parfois, la discipline d'Église s'occupe juste des péchés les plus honteux, hein. Mais elle est là plutôt pour encourager les sœurs et les frères à se laisser transformer par Jésus. Et ce genre d'attitude où on attaque quand on se sent attaqué, c'est grave parce que ça détruit les relations, ça détruit la confiance dans les frères et les sœurs. Ça peut ébranler l'unité de l'Église. Donc l'Église devrait encourager les frères et sœurs à ne pas se laisser aller par leurs propres émotions, mais à chercher à vivre ce que Jésus nous montre ici. Jésus nous apprend ça. Laissez faire, arrêtez, aimez vos ennemis. Exercez des actes de miséricorde envers ceux qui vous attaquent afin d'être un artisan de paix. Dans les autres évangiles, Jésus répond différemment. Il dit par exemple en Matthieu, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. » Et il rajoute, comment donc s'accompliront les Écritures d'après lesquelles cela doit se passer ainsi? Dans l'évangile de Jean, il dit, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Dans le texte de Luc, on ne voit pas Jésus donner des explications pourquoi il faut laisser faire, pourquoi il ne faut pas se défendre. Dans les autres évangiles, on comprend que Jésus veut que cette arrestation et lieu pour que la suite du plan de Dieu s'accomplisse, c'est-à-dire qu'il soit crucifié. Alors pourquoi est-ce que Jésus, ici, dans l'évangile de Luc, ne justifie pas sa demande d'arrêter, de laisser faire? Pourquoi Luc raconte ce détail que les autres n'ont pas raconté, que Jésus guérit l'homme? Parce que dans l'évangile de Luc, l'accent est mis sur l'attitude de Jésus plutôt que sur l'explication théologique de ce qui arrive. Et cette attitude de Jésus est un enseignement pour ses disciples, un enseignement pour nous. Un enseignement qui répond à la question « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée ?» Question qu'on ne retrouve que dans l'évangile de Luc. Jésus enseigne par son attitude. Il laisse faire, il arrête la défense, il guérit celui qui a été blessé. C'est la spécificité de ce texte de l'évangile de Luc. Comment pouvons-nous être des artisans de paix dans les situations d'hostilité? Est-ce que nous cherchons la volonté de Dieu pour nous, dans cette situation-là, dans ces situations où nous nous sommes attaqués? Si nous avons l'impression de devoir nous défendre, de contre-attaquer, nous n'arrivons pas à être des outils dans la main de Dieu. Je vous partage mon expérience il y a quelques années dans le ministère. C'était une personne de l'Église qui avait attaqué mon ministère, mais aussi le conseil pastoral. Et c'était difficile. Chaque fois que je le voyais arriver dans la cour de l'église, j'avais le cœur qui battait plus vite, les tripes qui se resserraient, et je préparais mes épées. Je préparais les choses que j'avais envie de lui dire et de lui reprocher. Comment pouvais-je être artisan de paix dans cette situation-là, dans l'Église? Comment pouvais-je apporter de la guérison? Le Seigneur m'a fait grâce de ne pas envenimer la situation et peu à peu, il m'a guéri de mes craintes, m'a donné la paix et m'a permis de répondre plutôt par l'amour qu'avec des attaques, avec mes épées. Vous aussi, peut-être vous êtes impliqué dans ce genre de conflit. Est-ce que vous arrivez à être dans la paix quand vous voyez l'ennemi arriver? Est-ce que vous arrivez à être des outils dans la main du Seigneur pour apporter la paix? Je vous laisse réfléchir à ça. Peut-être que vous paniquez et que vous contre-attaquez. Jésus est un exemple, mais un exemple difficile à suivre, n'est-ce pas? Alors, Jésus, il a un avantage, c'est qu'il voit la situation de plus haut que juste ses disciples. Et c'est le cas pour nous aussi, nous souvent on voit juste la situation terre à terre, et lui voit la situation de plus haut. C'est pour ça que Jésus, il sait exactement où il va. Il dit par exemple aux chefs qui viennent l'arrêter, « J'étais avec vous tous les jours dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. » Jésus pouvait analyser cette situation et comprendre ce qui se jouait. Cette mention de l'heure des méchants et du pouvoir des ténèbres est aussi un élément exclusif à l'évangile de Luc. On voit que le texte met vraiment l'accent sur ce conflit entre le monde et Jésus-Christ, entre Satan et Jésus-Christ, avec le monde qui attaque Jésus et ses disciples, et Satan qui utilise tous les moyens à sa disposition, même un disciple qui trahit. Dans le plan souverain de Dieu, il y a dans le ministère de Jésus une heure où les méchants ont le champ libre, une période où les ténèbres vont donner l'impression de progresser et même de gagner. Ça ne doit pas être une surprise. Quand nous-mêmes, nous avons conscience de la souveraineté de Dieu, quand nous croyons que le Seigneur dirige le monde, dirige l'histoire et qu'il dirige nos vies, nous devons simplement croire ce qu'il dit dans sa parole quand il annonce toutes sortes d'oppositions. Nous ne devrions pas être surpris d'être attaqués. Mais dans le plan souverain de Dieu, ces ténèbres ne sont que provisoires. Parce que dès la mort de Jésus, le voile se déchire dans le temple. La voie a été ouverte entre humain et Dieu. Et dès la résurrection de Jésus, le troisième jour, la mort a été vaincue et a perdu son pouvoir. Jésus voyait ça. Face à l'adversité, Jésus voyait plus loin. C'est la finalité qui a donné la paix à Jésus. La vision de la victoire lui a permis de dire à ses disciples de rengainer leurs épées et lui a permis de guérir l'oreille du serviteur. Il était dans une optique d'obéir à son Père en sachant où le Père allait l'amener. C'est cela qui lui a permis de rester dans cette vision-là. Alors dans nos situations d'hostilité, nous devrions aussi chercher à voir la finalité, chercher à obéir au Père qui nous promet la finalité de nous retrouver un jour dans la paix éternelle auprès de lui. C'est seulement comme ça que nous pouvons rester en paix. J'aimerais conclure cette question de la paix intérieure dans les situations d'hostilité, nous concerne tous. Nous avons tous des relations où c'est compliqué. Je vous ai dit, il n'y a pas de secret dans la vie chrétienne. Le temps passé avec notre Père céleste nous prépare à ces situations-là. Nous rend capables d'agir comme Jésus. Alors, pas seulement le temps qu'on passe, c'est l'Esprit de Dieu qui vient prendre place dans nos cœurs, qui nous rend capables d'agir comme Jésus qui l'a fait. Un acte de compassion avec son ennemi. Et puis tout cela en gardant les yeux fixés sur ce que Dieu nous promet et en cherchant à vivre la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous aide à vivre cela pour que nos relations soient transformées et que nous puissions rester en paix quoi qu'il arrive, quoi que nous ayons à faire face. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous sommes bien petits face à Jésus. Nous nous sentons bien faibles face à lui. Et nous nous retrouvons bien plus dans les disciples, dans les réactions des disciples. Seigneur, je te prie que cet enseignement descende au fond de nos cœurs, que nous puissions le méditer, que nous puissions méditer ta réaction face à l'adversité, face à l'arrestation. Je te demande, Seigneur, de nous éclairer aussi pour que nous puissions prendre conscience quelles sont ces réactions qui ne sont pas bonnes dans notre couple, avec nos frères et sœurs, peut-être dans notre voisinage, au travail ou ailleurs. Éclaire-nous pour que nous puissions comprendre là où tu veux nous transformer et changer nos cœurs. Seigneur Jésus, tu nous promets ta paix, une paix différente de celle que le monde propose. Nous voulons, Seigneur, l'accueillir en apprenant à la recevoir de toi. Amen.